Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heures passées de quelques secondes sur Radion, voici Wagon Livre, votre émission littéraire. Je le précise tout de suite, c'est un numéro qui a été enregistré il y a quelques semaines lors de la 15e édition de Livre en Vigne, cette très grande fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. C'était d'ailleurs la 15e édition au château du Clos de Vougeot. Et à cette occasion, nous avons rencontré un primo-romancier qui est en cette fin de matinée devant notre micro sur l'antenne de Radion, P.E. Kéral, bonjour.
Bonjour Yannick.
Votre premier roman sorti il y a un peu plus d'un mois maintenant a pour titre « Au départ, nous étions quatre », c'est aux éditions Anne Carrière. Alors P.E. Kéral, c'est un pseudonyme.
Oui, c'est un pseudonyme. C'est le nom de Kéral était le pseudonyme de mon grand-père paternel qui était lui-même auteur de fables, de chansons et même d'opérettes. Il avait aussi d'autres talents d'artiste et je trouvais que pour un livre de famille, c'était aussi bien de choisir, de créer une nouvelle descendance même d'un pseudonyme.
Alors comme vous le dites, un livre de famille, parce que c'est l'histoire d'une famille, c'est l'histoire de trois garçons, on va bien sûr entrer dans le détail de ce premier roman. D'abord, comment trouve-t-on un éditeur? Depuis combien de temps ce roman était-il en gestation? Dans la tête surtout alors, biographiquement, de vous, nous ne savons pas grand-chose, hormis ce que fournit la quatrième de couverture, qui nous dit que vous vivez à Paris, que vous parcourez l'Europe pour vendre des chapeaux, et que, au départ, nous étions quatre, et votre premier roman. Que peut-on savoir de plus, de mieux ou pas?
Oui, on peut en savoir plus, il n'y a pas de problème, puisque effectivement la bio est assez lapidaire sur le quatrième. Mais ce qu'on peut savoir de plus, c'est toujours par rapport à ce thème de la famille qui traverse ce livre, c'est que je suis moi-même issu d'une famille avec une fratrie de quatre et que j'ai personnellement des enfants. Donc voilà, c'est peut-être le détail à ajouter.
C'est une information qui n'est pas négligeable, puisque effectivement, avec ce premier roman, dont je rappelle le titre, au départ, nous étions quatre, nous rentrons dans une famille, j'allais dire, assez normale.
Oui.
Encore qu'il faille se méfier de l'adjectif normal, qu'est-ce que la normalité quand on parle de famille, puisque toute famille... Et vous en savez aussi quelque chose, que ce soit la vôtre, celle de vos parents, frères et sœurs, ou vos propres enfants. Toute famille a ses originalités, ses forces, ses faiblesses. Famille, je vous hais, disait André Gide.
On va dire que chaque famille a son protocole royal, c'est-à-dire effectivement tout son héritage, sa propre histoire. Voilà, il est certain que quand on est quelque part, quand on est dans une famille, peut-être sans s'en rendre compte, on commence par endosser justement le fardeau, même si fardeau peut avoir une connotation un peu négative, mais c'est pas forcément le cas. Mais enfin, on part avec cet héritage avec soi et c'est une première question par rapport à notre liberté. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet héritage? Est-ce qu'on l'adopte? Est-ce qu'on le remet en question?
Est-ce qu'on l'oublie?
Voilà, comment fait-on pour trouver sa propre voie, celle qui vous correspond le plus profondément? Comment fait-on pour trouver son unicité par rapport justement aussi à tout ce protocole qui vous arrive dessus? Voilà, qui peut être sans doute une bénédiction ou au contraire quelque chose de plus difficile à digérer et à transformer dans quelque chose qui vous correspond le plus possible.
Alors au début de notre échange, je disais avec imprudence que vous nous présentiez une famille normale. Oui, elle paraît assez banale. Donc, une famille un couple, lui, exploite la terre, nous sommes en Bretagne. L'épouse, elle n'est peut-être pas tout à fait normale, là, qui est aussi une maman. Et puis, il y a trois garçons. Alors, il faut faire le lien avec le titre du roman. Il y a trois garçons, trois fils, mais le roman s'intitule « Au départ, nous étions quatre ». Et ils étaient quatre, ils étaient réellement quatre, parce que, il faut le dire, ce n'est pas non plus un mystère, c'est ce qui, finalement, surplombe tout le roman et la vie des triplés et des parents également. C'est-à-dire qu'il y a un nourrisson qui est né, mais un mort-né, et les trois autres ont survécu. Donc ce sont des triplés, une famille un peu montrée du doigt dans ce village breton, comme une famille originale. Mais il y a le fantôme, le spectre omniprésent dans les têtes de chacun de ces personnages. C'est un roman aussi où vous montrez, me semble-t-il, qu'on ne peut pas se débarrasser d'un mort. Et pourtant, ce frère qui est né et qui est mort au bout de quelques heures n'a vraisemblablement pas pu marquer la vie de ces garçons. C'est un souvenir qui, en tout cas, les marque inconsciemment, peut-être.
Oui, voilà, pendant très très longtemps, et effectivement, inconsciemment, d'autant que voilà, cette naissance issue d'une grossesse multiple est forcément très très particulière. Ça fait beaucoup d'émotions, sans doute, au même moment. Et voilà, il y a l'un d'eux, malheureusement, ne survit pas, mais c'est quelque part, il prend une place forcément prépondérante dans la vie de chacun, aussi parce qu'au moment où ils naissent, il y a sans doute beaucoup de joie, parce que les naissances sont la plupart du temps de grandes joies, mais il y a aussi cette douleur infinie qui est qu'il y en a un qui ne survit pas et donc qui forcément a un impact considérable sur la vie des parents, sur la vision des parents sur cette naissance et forcément, effectivement, au début de leur vie, tout au moins inconsciemment, sur les trois autres frères qui ont survécu.
Alors, trois figures masculines, celui qui est mort était aussi un garçon, il n'y a pas de fille.
Il n'y a pas de filles, non, mais il y a autour d'eux des personnages féminins, notamment Jérômine, qui est la compagne du dernier, parce qu'il y a quand même un ordre, malgré le fait que ses enfants soient des triplés. Et puis aussi Fleur, qui est plus tard surnommée Fuego, qui est une personne qui vient de la Réunion et qui va se mêler à cette fratrie pour petit à petit, elle aussi, trouver sa propre voie.
Donc naissance de triplé, une fratrie exceptionnelle, une fratrie de mâles, et puis des parents, bon, aimants certes, mais un peu loin de l'éducation de ces enfants qui finalement grandissent à la campagne, entre la cour de la ferme, les petits veaux, les grands pâturages sur lesquels le père aime, j'allais dire, rayonner au volant de son tracteur. Et puis une mère un peu absente, mais aimée de ses fils, mais une mère marquée aussi par de nombreux traumatismes.
Oui, c'est vrai que le père, il est d'abord profondément attaché à sa terre. C'est sûr que voilà, il y a notamment une phrase qui dit voilà, ma terre ne s'arrête jamais de battre. C'est effectivement, lui, il est lié, j'allais dire presque physiquement, effectivement, à l'activité de la terre, au travail de la terre, aux saisons, à la routine des saisons dans laquelle il aime vivre. Donc c'est son attachement premier, même si effectivement il garde lui aussi la douleur de cet accouchement, mais il essaye de la transcender, on va dire, par le travail de la terre.
Alors il y a aussi un souvenir qui est évoqué, c'est que le père, un jour, par accident bien sûr, avec son tracteur, a failli rouler sur le corps d'un de ses fils qui était un peu vautré dans l'herbe. Et là, ça aurait pu être un renouvellement du drame de cette famille, parce qu'on a l'impression que finalement il s'agit de tenir la mort à distance, d'éviter qu'il y ait un autre enfant qui disparaisse, parce qu'il y a quand même ce nourrisson, ce mort-né qui a un prénom tout de même, Gabriel. Mais ce père, c'est peut-être un des rares moments où il manifeste une émotion parce qu'il a conscience qu'il a failli à nouveau provoquer un drame. Et il y en aura d'autres, des drames dans ce roman.
Oui, voilà, et c'est vrai que sur cette scène, le père qui manque d'écraser l'un de ses fils avec son tracteur, c'est l'occasion, sans doute par l'émotion très forte que lui procure ce potentiel accident, qu'il fait un câlin à son fils comme peut-être jamais dans d'autres moments de sa vie il ne lui aura fait. Donc il trouve effectivement par l'horreur de ce qui aurait pu arriver à quelques secondes près, l'occasion de lui donner une tendresse qu'il a par ailleurs du mal à fournir.
Effectivement, hein, peut-être son seul geste de tendresse dont je peux me souvenir, comme s'il voulait éteindre une mort impossible. L'ambiance de ce premier roman, PE, est extrêmement dominée par certaines souffrances, et puis la mort est omniprésente. Il y a la naissance, certes, événement joyeux, mais la mort s'étire tout au long du roman. Alors, je ne vais pas tout raconter, bien sûr, mais il y a un certain poids quand on lit ce très beau texte avec d'excellents passages. C'est une obsession d'avoir voulu ancrer la mort dans ce cocon paysan breton.
Il nous faudrait trouver un autre mot que obsession, mais je pense que il est fondamental de se faire accompagner de la mort. C'est pour moi quelque chose de primordial. Alors, je le dirais moins bien que Comte-Sponville, mais je pense qu'il faut y penser tous les jours. Aussi parce que la mort d'un proche, la mort de quelqu'un auquel on tient beaucoup, qui vous est très cher, peut aussi être l'occasion d'une remise en question complète de ce qui reste. Et peut-être de changer de chemin, de changer soi-même pour trouver une nouvelle vie. Pour moi, la mort peut être une source de naissance, d'une infinie puissance pour ce qui reste.
D'ailleurs, c'est un peu une des dernières phrases de votre roman où la mort peut engendrer. Enfin, un certain type de mort peut engendrer une seconde de naissance.
Oui, tout à fait. Au sens quand on est la première fois, on va dire quand on sort du ventre de sa mère, forcément, on va dire que la conscience n'est pas là. Donc, et même pendant toute la durée de l'enfance, on dit souvent que la nostalgie de l'enfance vient du fait qu'on était inconscient de notre bonheur. Donc voilà, et petit à petit, je pense que la présence de la mort peut nous aider à mieux conscientiser la vie, à mieux être présent dans la vie, à mieux palper la chance que nous avons d'abord de vivre et après trouver la force de surmonter les difficultés que nous rencontrons tous, à commencer par celle de la mort, puisque la mort génère bien sûr naturellement au départ beaucoup de chagrin.
Il est évident qu'en fin de compte, il faut accepter la mort des autres et notre propre mort. C'est le fameux memento mori de la sagesse antique. Et en fin de compte, il ne sert à rien de lutter ce contre quoi on ne peut rien faire finalement. Oui. Ce serait pur gaspillage d'énergie. Donc se résigner, ce n'est pas donné à tout le monde non plus.
Non, c'est vrai. C'est
une espèce d'absurdité. Enfin, ça a été largement montré au théâtre ou dans les romans, mais l'absurdité de notre condition, c'est la seule certitude que nous ayons, semble-t-il. C'est notre mort et c'est laid et à la fois c'est peut-être fort bien ainsi parce que
c'est fort bien ainsi parce que
n'est pas enviable.
Ah non, sûrement pas. non, mais effectivement, voilà, y penser souvent peut nous permettre d'électriser le moment présent aussi parce qu'on a tous le sentiment, je pense, plus on avance en âge, que la vie est tellement courte, que c'est tellement voilà. Dans ce livre, j'ai cité une phrase de Sainte Thérèse de Lisieux qui m'habite très souvent et qui dit « Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Pour faire quoi que ce soit, je n'ai rien qu'aujourd'hui. » Donc voilà, l'idée de penser à la mort pour moi, c'est ça, c'est de effectivement se dire « Aujourd'hui, je peux faire quelque chose. » Aujourd'hui, je peux être, aujourd'hui, je peux vivre consciemment et je peux essayer de faire du bien autour de moi.
Alors, la mort, elle est aussi présente à travers l'activité professionnelle des parents des triplés, puisqu'ils ont un camarade qui, c'est un garçon, hein, qui se prénomme Cheyenne, en raison de sa cheveux noirs assez longs qu'il attache avec un catogan. Alors, C'est normal, puisque les parents sont fossoyeurs. Là aussi, la mort se matérialise à travers les tombes, les plaques que l'on pose sur les pierres tombales. Et ils grandissent aussi un peu au milieu des tombes avec ce camarade Cheyenne, qui est surtout très proche, j'allais dire, de l'aîné. L'aîné, parce que de ces triplés, il y en a un qui est sorti en premier.
Le premier, oui.
Et ce premier, donc, ses premiers sortis, c'est PS.
Oui, voilà, c'est un personnage de effectivement, Marbrier Fossoyeur qui est là et qui est un ami de la famille, effectivement, particulièrement de PS. Et donc, qui donne l'occasion, effectivement, au personnage de ce roman de vivre des moments importants de leur vie dans les cimetières. Peut-être que ça vient aussi d'une expérience personnelle. Je trouve que quand on va dans des cimetières, qu'on visite des cimetières, on découvre beaucoup de choses sur la vie des gens par les plaques qui sont posées sur ces pierres tombales, et que ça dit beaucoup de la vie qui ne cesse de se transformer, qui ne cesse de se renouveler. Et c'est toujours très, très touchant et très attendrissant de voir les messages que laissent les gens sur la tombe de leur mort.
C'est P.E. Kéral qui nous accompagne en cette fin de matinée sur Radio dans Wagon Livre pour son premier roman intitulé « Au départ, nous étions quatre ». C'est paru aux éditions Anne Carrière. Nous allons, P.E., si vous le voulez bien, marquer un premier intermède musical et on se retrouve juste après pour continuer à parler de ces formidables triplés confrontés à la vie, à la famille, aux souvenirs d'un frère mort-né. Mais il y a aussi beaucoup question de naissance et pas que de mort dans ce roman. C'est équilibré. Nous revenons juste après la virgule musicale que nous vous proposons.
Go!
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Au départ, nous étions quatre. C'est le titre du premier roman de P.E. Kéral qui est aujourd'hui devant notre micro. Une émission que nous avons enregistrée lors de la 15e édition de Livre en Vigne au château du Clos de Vougeot. P.E. Kéral, vous parliez des cimetières, vous parliez donc d'un des camarades des triplés dont les parents sont fossoyeurs en Bretagne et marbriers. Balzac allait souvent chercher des prénoms ou des noms de ces personnages en se promenant effectivement dans les cimetières, en relevant des patronymes ou des prénoms qu'il utilisait ensuite dans sa comédie humaine. Alors les prénoms, vous aussi, les prénoms, on peut en parler de ces triplés parce qu'ils ont un prénom mais ils n'ont pas de nom de famille. C'est comme les parents, donc la mère se prénomme Léa, le père donc l'agriculteur amoureux des terres qu'il laboure dans cette belle Bretagne brumeuse mais aussi généreuse à souhait, Léa et Luc, et puis il y a ces trois garçons. Alors comment s'opère le choix des prénoms? Déjà du côté du romancier, c'est vous qui leur donnez une identité, une vie de papier.
Oui, tout à fait. C'est un processus un peu magique. Je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Je pourrais pas en faire le commentaire composé. Les choses viennent comme ça au fur et à mesure que se déploient les personnages. Et là, c'est vrai que le point commun qui m'a amusé, c'était que les prénoms de cette fratrie commencent tous par la lettre G, comme un point G. Et voilà, mais vous expliquer concrètement comment se fait le choix des prénoms, c'est délicat pour moi, je ne saurais pas trop.
Alors, le premier sorti, PS, son prénom c'est Grégoire. Il y a Gilles, donc G-I-L, un peu plus tard dans le roman. Et puis il y a Gustave, qui est Gus dans le roman. Parce qu'en fin de compte, ce qui est surprenant aussi, c'est que leur prénom est rétréci. Et il y a aussi un personnage qui, suite au soubresaut de l'existence professionnelle et aux souffrances aussi sentimentales, dit « je rétrécis ». Il y a une tendance à rétrécir finalement.
Au surnom, oui, c'est peut-être ça aussi, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte seulement à la fin de l'écriture de ce roman, c'est que oui, voilà, ces personnages ont des surnoms qui raccourcissent en effet leur nom. Et peut-être que c'est une nouvelle allégorie de ce qui leur manque, une nouvelle fois de ce personnage frère disparu et qui ne cesse de réduire quelque part leur champ de vision.
Alors les triplés ont des prénoms qui tous commencent par la consonne G, hein, donc on a Grégoire, Gilles, Gustave. Les parents ont des prénoms qui commencent par la consonne L, Léa, la mère, Luc, le père. Et j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la mère, Léa. Il faut dire aussi que votre roman est polyphonique, puisque chacun des personnages prend très régulièrement la parole. Et donc c'est polyphonique, il y a un entrecroisement comme ça des points de vue, et c'est en cela très, très intéressant. Le jeu des sept familles, c'est la mère qui parle, le père, le PS, le premier sorti, etc. Et Léa, c'est la mère qui a eu 3 garçons, elle en a eu 4 et un qui est mort. Mais sa vie semble brisée.
Oui, je pense.
Elle se reconstruit aussi de par l'entourage de ses 3 garçons aimants, plutôt gentils, qui ne font pas de sottises, qui en tout cas n'inquiètent pas tellement les parents, ont des comportements normaux et vont trouver un créneau professionnel qui semble...
Oui, oui, tout à fait. Il y a pas de, c'est une famille.
Il y a pas de délinquants, il y a pas de drogués.
Absolument, il y a pas d'accident majeur, ouais. On va dire. Voilà, et effectivement, Léa entretient quand même un joli climat de tendresse parmi les membres de sa famille. Voilà, mais effectivement, elle a toujours en elle cette douleur incompréhensible sur. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui n'a pas survécu ? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que ça se passe ainsi ? Voilà, qui est quelque chose qui l'habite complètement et dans sa tête, je dirais, et dans son corps aussi. Et je pense que, voilà, je ne suis pas une femme, je ne peux pas parler en expert là-dessus, mais je n'ose pas imaginer ce que la douleur que signifie perdre un enfant. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier et que, voilà, il faut sans doute apprendre à l'apprivoiser. C'est sans doute un long chemin.
Alors, c'est surprenant aussi parce qu'elle aime ses enfants, mais elle aime aussi les livres. Et les livres, c'est ce qui la sauve d'une forme de démence, d'une forme de folie. C'est ce qui la rattache peut-être à une forme de sérénité. Elle passe son temps à lire des livres de la collection prestigieuse de la Pléiade qu'on lui a donné, d'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est son salut passe par les livres et par une collection de livres assez, qui est limitée. Et effectivement, elle relie toujours les mêmes livres. C'est par elle qu'elle tient, c'est par la littérature qu'elle tient, et c'est par sa répétition aussi, par la découverte probable de nouvelles émotions à chaque fois qu'elle lit les mêmes textes, pour arriver effectivement à tenir et à supporter ce qui lui est arrivé initialement.
Et d'ailleurs. Elle dit, concernant les livres, donc ces lectures répétées de ces volumes de la Pléiade, avec le temps, avec ces relectures répétées, j'ai compris, ce sont ces livres qui me tiennent debout. Ce sont eux qui me lisent. En eux, je comprends mon histoire. En eux, je me connais. Là, vous mettez le doigt sur peut-être une des fonctions de la lecture, c'est-à-dire que le livre peut être un miroir pour le lecteur qui peut comprendre mieux son destin ou y retrouver, c'est ce que je disais là, par rapport à cette famille, y retrouver des propres souvenirs, des propres sensations joyeuses ou douloureuses.
Oui, tout à fait, bien sûr, c'est la merveille de la lecture, c'est la merveille de la littérature, c'est que voilà, on est seul face à un texte, peut-être même plus que face à un auteur, on est seul face à un texte et dans ce texte, il y a des choses qui peuvent résonner, qui peuvent vous parler, peut-être que ces choses changent aussi selon qu'on lit le livre une première fois, une deuxième fois ou une troisième fois, et sans doute apprend-on à mieux se connaître, à mieux s'ouvrir de nouveaux champs grâce à la littérature, bien sûr.
Je voudrais simplement insister sur le fait qu'il n'est pas question que de mort. Il y a aussi beaucoup de naissances. Alors, à la ferme, il y a la naissance d'un petit veau. C'est toujours aussi un événement auquel on assiste et qui émeut la famille. Il y a aussi une portée de chats. Alors, il y a 4 chatons et c'est PS, je crois, qui tue toujours le 4e. Alors, c'est avant d'avoir cette révélation que cette famille a... perdu un enfant, c'est là qu'on se dit, mais comment se fait-il que l'on sacrifie le 4e comme si le chiffre 4 était...
Oui, un PS est tout à fait insupportable. Et pour lui, le chiffre 4 est insupportable, oui, tout à fait. Donc, il tue le 4e chat.
C'est peut-être le plus puissant, d'une part, parce qu'il est le PS premier sorti du ventre de la mère. On a l'impression que c'est lui qui a la force. D'autre part, il épouse la vie, mais dans le combat. Et dès le début, d'ailleurs, de votre roman, PS dit que sa vie est un combat. Et il devient militaire de carrière, prenant le risque aussi de faire peur à ses parents et de perdre la vie sur un terrain d'opération extérieure. Là encore, une épouvante viscérale pour les parents de perdre un fils adulte, cette fois-ci, dans le cadre de sa mission de militaire de carrière.
Oui, c'est ça. C'est un personnage qui est sans doute divisé entre voilà cette force qui on va dire, inhérente à la carrière d'un militaire. Donc, il est costaud, il est fort, il est puissant. C'est tout ce qu'il dégage. En même temps, il est pétri de fragilité et il est dur, sans doute, avec ses parents, puisque effectivement, il choisit une carrière où il va se mettre en danger, comme s'il voulait toujours leur rappeler que malgré l'épouvantable aventure qui leur est arrivée, il reste encore dans la fragilité, il reste encore dans la possibilité d'être un deuxième qui disparaîtrait.
Je voudrais dire à nos auditrices et auditeurs que les premières pages de votre roman, peut-être que vous pourriez d'ailleurs nous en donner un petit morceau de lecture, sont d'une très grande force, d'une très grande beauté littéraire. Et ce sont aussi des premières lignes qui créent la surprise. Parce qu'il y a l'ambiguïté du lieu ou de l'action, on ne sait pas trop où l'on est, dans quel contexte. On pourrait penser un contexte guerrier, un contexte d'urgence, alors qu'en fin de compte, c'est un autre événement qui est raconté. Mais je vais peut-être, P.E. Kéral, si vous le voulez bien, vous laisser un petit temps de lecture. C'est vraiment le début de votre roman. Je crois que ça va parler à plusieurs de celles et ceux qui ont la gentillesse de nous écouter ce matin.
Ce moment-là, Fuego, c'est l'au-delà de la guerre, tu comprends ? L'au-delà de la mission pourrie qui ne fait qu'empirer. Voilà, des coups de boutoir nous coincent à plusieurs dans cet abri où nous venons de nous réfugier en précipitation. Dehors, ça castagne sec. J'étouffe. Nous y sommes sans doute en sécurité pendant un moment, mais nous sommes trop nombreux, assis, debout, empilés les uns sur les autres. Je me demande à chaque pression au-dessus de ma tête comment je vais supporter la prochaine suffocation. Nous toussons chacun à notre tour en recrachant nos glaires. Depuis combien de temps ? Je ne sais plus. Je n'ai pas le choix. C'est ma condition. C'est ma vocation. Supporter l'extrême. Toute ma vie, je le sais, est tendue vers l'extrême. Depuis son tout début. Il fait une chaleur de plomb, sans doute près de 40 degrés. Et 40 degrés dans un lieu aussi exigu et qui n'en finit pas d'être trempé, c'est une cocotte minute. Je peine à ouvrir les yeux, crucifié par la moiteur ambiante. Mes lèvres se boursouflent, elles vont se rompre au premier rictus, lâchant un goût poisseux tout au fond de ma gorge. J'essaie d'écarter les jambes et les bras pour me ménager un espace, mais je me heurte aux autres en permanence. À chaque tentative, ils me rendent des coups sur toutes les parties du corps. Nous sommes tous en mode survie. La pression monte, ça vrombit de partout, dehors, dedans, et je ne peux même pas me boucher les oreilles. Les bruits, tels des obus, me traversent les chairs.
Merci P.E. Kéral, ce sont vraiment les premières lignes de votre roman, cette ambiguïté aussi. Et puis, ça rappelle et ça annonce le parcours du premier sorti, donc Grégoire, qui embrasse la carrière militaire et qui choisit le risque, alors que les autres sont plus fragiles, moins téméraires que PS, c'est celui qui est un peu le conquérant. Les autres, notamment celui qui va reprendre la ferme familiale, c'est un tendre, c'est un fragile, non ?
Oui, c'est ça.
Ils ont tous quand même des caractères extrêmement différents.
Oui, ça pose la question de comment...
Ils ont vécu pourtant le même traumatisme.
Absolument, oui, tout à fait. Chacun a son histoire, mais voilà, ça pose la question de comment est-ce qu'effectivement on choisit ses études, éventuellement, sa voie professionnelle. Comment grandit-on par rapport à l'endroit où nous sommes nés ? Est-ce qu'on fait des choix pour faire plaisir à nos parents, à papa ou à maman, ou est-ce qu'au contraire on souhaite s'opposer à l'un d'eux? Et Gilles, le deuxième frère, effectivement, lui, il choisit dès le départ de se mettre dans la lignée de ceux qui vont continuer l'exploitation, donc de reprendre l'exploitation familiale à la suite de son père.
Il accepte l'héritage de cette ferme sur cette terre bretonne, alors voilà. Que Gus, lui, a besoin de macadam, de trottoir et de ville.
C'est
lui,
ça, lui, il ne supporte pas bien. Ne supporte pas l'odeur, la boue, etc. Et a besoin de trouver l'anonymat, effectivement, comme vous le dites, le macadam, les klaxons, tout ce qui fait la vie en ville. Donc il choisit de faire des études qui l'amènent à une carrière commerciale dans une société qui vend de la lingerie féminine.
Alors ça, c'est très, très subtil aussi. Il se retrouve, bon, évidemment, dans une société où il faut vendre, donc il y a la pression du commerce, mais il y a aussi ce côté esthétique de cette lingerie féminine, alors qui ne l'excite pas plus que cela, mais étonnamment, quand il touche certains des produits, des dentelles, il a le souvenir de ce frère mort-né. Et chacun des garçons a des réminiscences comme si il ne pouvait pas faire abstraction de ce nourrisseau qu'ils n'ont jamais connu, si ce n'est qu'ils ont été serrés tous ensemble dans le ventre et qu'il y a une trace inconsciente de sa présence dans leur vie au quotidien.
Oui, Gus, effectivement, peut-être par là, cherche en effet à inventer une douceur qu'il aurait pu avoir avec ce frère, une proximité qu'il a pourtant avec les autres, parce que pendant toute leur enfance, effectivement, il y a de grandes scènes de proximité, comme dans beaucoup de fratries, on se dispute, on se casse la gueule, mais en même temps, il y a des grands moments de tendresse quand le soir, on se lave les dents mutuellement dans l'eau de la fontaine. Donc voilà, peut-être que Gus, par là, cherche effectivement à retrouver, à inventer une relation qu'il aurait pu avoir avec ce frère.
On va, si vous le voulez, marquer un nouvel intermède musical et puis ensuite je vous donnerai à nouveau l'occasion de lire un passage de votre premier roman, un passage de votre choix. Je rappelle le titre de ce texte, Au départ nous étions quatre, c'est aux éditions Anne Carrière et c'est P.E. Keral. Je rappelle que c'est un pseudonyme qui est devant notre micro dans Wagon Livre sur Radio. Nous revenons d'ici quelques minutes.
Sur de la musique,
sur de la musique,
maman.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Merci de nous accompagner dans votre émission littéraire. Nous sommes aujourd'hui avec P.E. Kéral pour son premier roman paru aux éditions Anne Carrière. Au départ, nous étions quatre. L'histoire d'une famille, mais surtout l'histoire de triplés qui auraient pu être des quadruplés si l'un d'entre eux n'était pas mort à la naissance. Alors, il s'agit de survivre. Ces trois garçons vivent ensemble. P.S., le premier sorti, j'allais dire qui peut-être est l'aîné, puisque c'est lui qui, le premier sorti du ventre de sa mère, est un être effectivement qui irradie, qui domine, un être de feu d'ailleurs. Et il est celui qui domine, il est un peu le maître le plus puissant. Et P.E. Kéral, justement, à ce sujet, vous allez nous donner lecture d'un passage qui montre aussi cette forme de domination de P.S., mais tout en restant tout de même dans l'enfance, dans les jeux plus ou moins sadiques et bébêtes d'enfants.
Voilà, c'est Gus qui parle. J'ai longtemps été le valet de PS, et même son pot de chambre. Il me courait après dans les champs, me faisait tomber par des tacles rapides. Et quand j'étais par terre, coincé dans un sillon, il baissait son short et me pissait dessus en éclatant de rire. Je riais de même en criant des « Arrête !» pour implorer sa pitié, mais il continuait. Quand il avait fini, il se rhabillait simplement et rebroussait chemin. De mon côté, je crachais en desserrant les dents avant de fondre en larmes. J'attendais qu'il soit loin et je m'accroupissais, courbé sur mes genoux et les mains resserrées. Je sentais le soleil me sécher lentement et laisser sur ma peau comme sur mes vêtements les odeurs de la farce. Gilles n'était pas là pour me protéger de lui et, de toute manière, il était bien trop tendre. Un jour, je tombais plus tôt et me retournais en un éclair dès qu'il me crocheta. Je mis mes mains en cuillère et lui rejetais sa pisse au visage. Je rentrais alors le premier à la fontaine pour m'y rincer. Encore à sa surprise de s'être fait piéger, il dut se rhabiller avec ses mains poisseuses pour revenir dans la cour. Quand il arriva en courant, la présence de notre mère avec son livre, accoudée au rebord de la vasque, l'empêcha de se plaindre. Il se tint devant moi, les mains sur les hanches et les jambes écartées, ses yeux plantés droit dans les miens. Soutenant son regard, je pris mon temps sous le filet d'eau claire et profitais du bain. Alors que ma mère me tapotait le dos sans rien dire de mes pleurs, je sus qu'elle avait tout compris, qu'elle avait lu en nous comme dans son livre ouvert. Sans qu'elle ne dise rien, ni à l'un ni à l'autre, son regard fut comme une caresse balancée tour à tour sur chacun des visages. Dans le bruit léger du vent qui repliait ses pages, l'attention se perdit et le jeu entre nous s'installa dans des éclaboussures. Je vis le corps de PS oublier sa haine pendant que ma vengeance s'en allait dans les vagues du trop-plein. Tous les trois inondés, nous nous mîmes à rire à gorge déployée quand le livre à son tour tomba dans la fontaine.
Merci P.E. Kéral pour la lecture de ce passage de votre premier roman. J'aimerais qu'on parle des figures féminines, parce que ces garçons vont avoir une vie sentimentale, et tant mieux pour eux. Alors il y a deux femmes charmantes qui rentrent, qui intègrent aussi cette famille, qui intègrent le malheur, le souvenir de malheur de cette famille. Donc il y a Fleur, rebaptisée Fuego par PS, donc elle vient de l'île de la Réunion, elle vient chez des cousins en Bretagne, et c'est comme ça d'abord qu'elle fait la connaissance de, je crois que c'est Gus, hein, c'est, puisqu'elle va vivre un temps à la ferme aux côtés de Gus. Et puis ensuite, elle va aller vers PS. Elle a une fonction thérapeutique.
Oui, effectivement.
Elle est un petit peu naïve, en fait, parce qu'elle pense qu'elle peut guérir les humains.
Oui, c'est ça. Elle vient de la Réunion. Elle est d'une famille assez réduite, elle, pour le coup, puisque elle a grandi avec son père, sa mère étant décédée assez tôt. Et effectivement, elle arrive en Bretagne pour embrasser la carrière d'infirmière. Donc, voilà, elle rencontre Gilles dans un premier temps. Et donc ils vont vivre ensemble, et c'est vrai que c'est une personne qui apporte à chacun de ses frères elle les sauve, on va dire, chacun à leur tour, selon qu'ils sont un petit peu bancales ou au contraire qui tiennent bien sur leur pied. Donc elle irradie cette famille de soins à différents moments de leur vie pour les aider à se trouver eux-mêmes.
C'est une figure féminine salvatrice.
Tout à fait, tout à fait. Est, voilà, et c'est aussi en même temps grâce à cette, grâce à la vie qui va s'entremêler avec avec cette fratrie que elle-même va pouvoir se trouver, va pouvoir trouver sa voie et en l'occurrence retourner retourner à ses racines, mais dans une nouvelle fonction, dans une nouvelle direction.
Alors l'autre personnage féminin, c'est Jéromine, qui est une dessinatrice. Qui alors que alors c'est celui donc je... alors...
C'est Gus.
Hein, que Gus rencontre lors d'un mariage
ouais.
d'un collègue. Elle est dessinatrice et justement Gus a l'envie d'un tatouage à un moment. Et ce thème du tatouage, on le retrouve dans le roman à travers un des camarades de combat de PS qui a donc mené une carrière militaire. Pourquoi ce tatouage, ce thème ? On pourrait dire, c'est pas essentiel finalement de le raconter, ce tatouage. Mais je suppose que sous votre plume, il y a une symbolique de ce corps tatoué ou détatoué.
Oui, c'est comment dire, c'est peut-être une allégorie de ce que ces personnages souhaitent devenir. Donc en se marquant le corps, en se tatouant le corps avec des dessins particuliers, ou en les détatouant, on essaye de projeter des choix sur soi-même, de se contraindre dans une certaine direction. Et en les enlevant, peut-être d'essayer de se retrouver à notre état initial qui au fond n'avait pas besoin forcément de ce costume.
Alors moi je pensais aussi que le tatouage, effectivement, bon, on peut le créer, on peut l'effacer même si c'est douloureux.
Douloureux, oui.
Et contrairement long. Finalement au souvenir de la perte dont on ne peut pas se libérer. Donc je voyais le tatouage comme quelque chose qui s'efface. Comme une inscription sur le sable qu'une vague vient ôter, alors que la souffrance, la douleur de la perte, on n'en guérit pas. Je voyais aussi, pourquoi pas, cette interprétation-là.
Mais oui, tout à fait. Il y a sans doute, vous le dites avec des mots très justes, je pense que...
Et Gus, il veut se faire tatouer tout de même, c'est étrange, il veut se faire tatouer une méduse. Et il est un peu ça, lui, un peu mou, flottant. Du moins, à la fin de sa vie, quand ça va beaucoup plus mal, qu'il tombe dans la solitude, qu'il est...
Oui, au bout d'un moment, il ne sait absolument plus où il en est.
D'abord de mort sociale, puisqu'il prend une décision courageuse, mais qui va entraîner quand même
le personnage
le regard
qui se perd
sévère
le plus.
Des autres
c'est
sur
le,
lui.
C'est
oui,
tout à fait. C'est le personnage qui se perd le plus et qui, effectivement, peut-être comme une méduse, est celui qui flotte un peu sans trop savoir où il va aller. C'est le courant qui le porte, c'est la marée qui le porte. Et voilà, son voyage ressemble un petit peu à celui d'une méduse, même si à la fin, il n'échoue pas forcément sur la plage pour se dessécher totalement.
Alors, certains de ces personnages écrivent. Justement, Gus va, après avoir renoncé à son métier et connaître moult problèmes, je laisse les lecteurs découvrir cela, mais il s'adonne à l'écriture. Il y a d'autres écrits qui apparaissent. On découvre que le père aussi avait écrit. Il y a les carnets militaires de PS, bon, qui ne sont peut-être pas de la grande littérature, mais l'écrit est là. Et puis une mère qui lit sans arrêt, relit ces tomes de la Pléiade. Donc il y a beaucoup de thématiques, beaucoup de strates thématiques dans ce roman, que je trouve pouvoir être un roman très, très utile pour des élèves de seconde, par exemple, où on pourrait... Travailler sur le thème de la famille, la naissance, la mort.
Et l'écriture, en effet, qui peut être salvatrice, qui a bien sûr laissé une trace. Donc, dans le cas de PS, c'est raconter ses missions, sans doute, comme vous le dites, pas de la grande littérature. Et dans le cas de Gus, peut-être être le remède à cette vie tourmentée et lui permettre de trouver un peu de repos, un peu de calme.
Alors, les carnets militaires de PS ne sont peut-être pas de la grande littérature, mais vous, en revanche, vous la pratiquez, la grande littérature, dans ce premier roman, parce que vous êtes autant à l'aise dans des scènes très intimes où vous racontez les triplés dans le ventre, donc qui suffoquent, qui veulent sortir. Superbe première page très impressionnante de votre roman. Vous êtes totalement à l'aise pour raconter des scènes d'opérations militaires. J'ai cru d'ailleurs que vous les aviez vécues personnellement, alors que c'est vraiment de la création, de la fiction. Certes, comme vous dites, nourrie de témoignages de militaires, vous racontez comme si vous étiez, comme si vous l'aviez vécu, des attaques dont PS et son camarade Marc sont victimes.
Oui, c'est vrai qu'en écrivant ce roman, j'ai découvert que je suis très sensible aux images. Et je pense que quand je rentre ou je déroule des scènes concernant un personnage, je suis un petit peu comme dans un film. Donc c'est vrai que là, sur ces scènes militaires, je me suis inspiré de faits réels, de choses qui sont arrivées à certains soldats de ces missions qui ont lieu en Afrique et particulièrement au Mali. Mais le fait de voir ces témoignages, de revoir ces images, m'emporte complètement dans les situations. Et c'est l'une des plus grandes découvertes que j'ai faites dans l'écriture de ce roman.
Alors il y a aussi dans le roman une playlist de chansons. Je pense à Rita Mitsouko, Marcia Baila, parce que la chanson est mentionnée. Alors il y a d'autres chansons qui apparaissent dans le texte. Mais j'aimerais un petit mot sur le titre des chapitres que vous avez emprunté à un chanteur également, si je ne m'abuse.
À Léo Ferré, oui, tout à fait, dans une chanson qui s'intitule « Tu fais quoi ?». Cette chanson, je l'ai entendue un peu par hasard au moment où j'écrivais ce livre, parce qu'il m'arrive d'écrire en écoutant de la musique, et notamment des chansons françaises. Et tout d'un coup, il y a certaines des phrases de cette chanson, même si j'ai changé les pronoms, certaines des phrases de cette chanson m'ont paru complètement représenter les différents moments de l'existence de cette fratrie. Et voilà, ça illustrait parfaitement mon propos et permettait aussi de le rythmer, peut-être pour agrémenter aussi ma propre lecture et donc j'imagine aussi celle des lecteurs.
Au départ, nous étions quatre, premier roman. Deuxième roman à envisager ?
Mais oui, deuxième roman à envisager, avec toutes les difficultés que ça comporte, puisque le premier est là, gentiment posé sur mon épaule, comme une chouette qui tourne sa tête à 360 degrés et qui me regarde un peu partout. Mais oui, il y a déjà quelques idées qui se posent. Après, voilà, je suis aujourd'hui complètement dans la joie et dans l'effervescence de ce lancement, donc c'est un petit peu plus délicat de trouver des moments de calme pour écrire. Mais oui, bien sûr, j'ai envie de continuer à écrire, bien sûr.
Et de vendre des chapeaux à travers l'Europe.
Ça,
c'est particulièrement original. P.E. Kéral, je vous remercie de nous avoir accordé de votre temps donc à l'occasion de ce 15e livre en vigne, puisque nous avons enregistré cet échange dans la cour du château du Clos de Vougeot. Et je rappelle donc votre excellent roman. Alors, dans une émission de radio, on essaie de placer des éléments. Ça peut rester peut-être un petit peu, les contours un peu flous. Mais justement, j'encourage nos lectrices et lecteurs à aller justement bien, aller vers la netteté de ce roman, de cette triplée, de cette vie qui est riche, pleine de joie, de souffrance. Avec la mort aussi omniprésente, mais la vie aussi qui est incarnée très largement dans ce texte.
La vie très forte.
La vie très forte.
Merci beaucoup Yannick, merci pour la précision de votre regard, j'y suis très sensible.
Au départ, nous étions quatre, donc de P.E. Kéral aux éditions Anne Carrière. Si vous avez manqué le début de notre échange, bien vous le retrouvez sur internet, sur le site yannickpetit.fr. On vous souhaite un bon congé de fin de semaine afin de proscrire cet horrible week-end. Et puis, je vous donne rendez-vous samedi prochain, toujours à 11h sur Radion. Au revoir et à la semaine prochaine.
Merci.